France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
2025 est une année placée sous le signe de la mer, en témoigne la grande conférence des Nations Unies sur l'océan qui s'est ouverte à Nice le 9 juin dernier et s'est achevée aujourd'hui même. Mais ces discours officiels et ces considérations politiques cachent tout un continent vivant, encore méconnu, un territoire dans lequel vivent des mammifères emblématiques, des monstres marins comme la baleine ou le dauphin. Mais ces animaux charismatiques peuvent-ils être par essence des sujets d'anthropologie sans tomber dans le piège de l'anthropomorphisme? Comment écrire le récit de leur rencontre avec les êtres humains? Pour en discuter, un invité ce soir, Fabien Clouette. Bonsoir.
Bonsoir, Quentin Lafay.
Vous êtes anthropologue chargé de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste des terrains maritimes, auteur de 3 romans aux éditions de L'Ogre. Vous venez de faire paraître Des vies océaniques, quand des animaux et humains se rencontrent, c'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Question du Soir.
Notre pêche, elle est très très loin d'être la pêche la plus agressive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle s'est moins industrialisée que les autres, elle a beaucoup moins de bateaux comme tel. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a concerté nos pêcheurs. Et là où dans nos zones métropolitaines, on était à 0,1% de protection, on est passé à 4%. Vous avez des gens qui vivent de cette pêche. Vous mangez de la coquille Saint-Jacques, vous mangez de la sole. Non mais c'est ça la réalité. Hein. Parce que moi j'écoute mes pêcheurs aussi. La France, elle est bonne élève. Elle est bonne élève parce qu'elle a beaucoup moins de chaluts de fond que les copains. Nous, on a un seul bateau de pêche industrielle, l'Émeraude. Le reste, c'est une pêche. Aux trois quarts, c'est moins de 12 mètres. Le reste, c'est entre 12 et 25 mètres. C'est pas des bateaux comme ça. Ensuite, on a beaucoup moins de chaluts de fond que les autres. Ensuite, on est aux avant-gardes de la protection. En aire marine protégée, en protection forte, en protection stricte.
Emmanuel Macron, le président de la République, qui s'exprimait sur France 2 le 10 juin dernier. Fabien Clouette, quel regard porte l'eau politique, la politique publique même d'une façon générale, sur cette profession, sur les pêcheurs ?
Eh bien, c'est vrai que, alors moi, j'étais pas à Nice. J'ai regardé l'émission à distance. J'ai vu qu'Emmanuel Macron, le président de la République, parlait de ces pêcheurs un petit peu avec la reprise des éléments de langage de l'artisanat, de l'industriel, en omettant peut-être la grande hétérogénéité en fait de ce métier, la grande diversité de ce métier, avec surtout des intérêts différents entre pêcheurs et des intérêts contradictoires. Et c'est peut-être ce que j'ai retenu de cette émission. Avec...
Pourtant, pardonnez-moi, il explique bien qu'il y a différentes manières de pêcher, qu'en France, on ne pêche pas peut-être comme ailleurs, en tout cas qu'on a un modèle différent qu'au sein de la pêche française. Même dans ce cadre-là, il y a différents pêcheurs, différents modèles de pêche.
C'est vrai, mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'on n'a qu'un seul bateau industriel, par exemple, ce qui dénote une drôle d'idée de conceptualiser cette notion d'industrie, puisqu'en fait, c'est tout un spectre en réalité. Et puis, on le voit avec tout le débat sur la déchalutisation. Il y a plein de chalutages différents, plein de tailles et de types de métiers différents. Même au chalut, il y a plein de manières de faire. En tout cas, il y a plein de tailles différentes. Par exemple, la flottier chalutière à la langoustine au départ du Kélibinec, c'est pas la même que des chaluts de plus grosse importance. Donc il y a, disons, des gradients à faire. Sachant que moi, cette toile de fond, ce paysage-là, je l'ai fréquenté surtout sur mon terrain de thèse, avec chez les pêcheurs de manière générale, et cette fois-ci un petit peu dans leur ensemble, malgré leur grande diversité et leurs intérêts contradictoires, une forme d'eschatologie, un peu l'impression, cette idée d'ailleurs véhiculée par les instances, du marin-pêcheur espèce en danger, avec tout un tas de phénomènes qui sont mis en corrélation les uns avec les autres, associés parfois de nature complètement diverse. On a pu penser par exemple à la prolifération de poulpes, qui était d'abord perçue comme une invasion en 2021 sur les côtes bretonnes, puis ensuite qui est devenue une aubaine, la disparition du tourteau, et donc toute une pêcherie qui s'en va, la question du chalutage dans les aires marines protégées, qui est très présente et qui, pour certains, est comme une épée de Damoclès, alors qu'on aurait pu prévoir quand même bien en amont que le chalutage pouvait pas durer éternellement comme il était prévu, puisqu'il est très pétrodépendant et qu'en fait ça fait plusieurs années qu'on sait ça. Et puis une autre toile de fond qui est celle également de mon ouvrage, qui est celle des captures accidentelles de dauphins, qui est un problème qui est connu depuis les années, je dirais depuis les années 80. On voit qu'il y a des pics hivernaux d'échouage. Le réseau national échouage qui s'occupe de ça le documente. Et à partir de 2016, vraiment, là, il y a une intensification. Et disons, mes collègues scientifiques ont mis ça en avant. Ensuite, ça a été porté par des ONG surtout, ce qui a amené ensuite aux fermetures spatio-temporelles qu'on a eues l'an dernier, cette année, et puis qu'on aura l'an prochain.
Il y a une autre toile de fond que vous dépliez, Fabien Clouette, dans vos travaux, et notamment dans les travaux que vous avez menés dans le Finistère Sud. C'est la façon dont les pêcheurs perçoivent la détérioration, les transformations du paysage, des paysages qui encerclent leur propre engagement, leurs propres travaux, leur propre quotidien. Comment justement la transformation de ces paysages, induits par le changement climatique, affecte directement la profession et les pêcheurs en particulier ?
Oui, c'est un petit peu en résonance avec ce que je disais, c'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui, comme il affecte, comme cette impression affecte directement le quotidien des pêcheurs, un peu dans leur diversité, dans la diversité des flottilles, même à l'échelle locale, il y a l'impression que malgré la faible démographie de cette population professionnelle, on pense 15 000 personnes environ, donc c'est pas énorme. Eh bien, il y a l'idée qu'il faudrait peut-être penser comme un seul homme à la survie de cette profession, alors que c'est pas le cas. Les pêcheurs sont pas en accord, ils n'ont pas les mêmes sensibilités les uns des autres, ils n'ont pas les mêmes manières de faire, les mêmes méthodes. Et surtout, il y a des techniques et des méthodes qui rentrent dans le cadre de ce que des collègues ont pu appeler la pêche écologie, et d'autres qui sont amenées à disparaître. Parce qu'en fait, elles ne sont ni rentables, ni écologiques, et qu'elles ne rentrent plus dans nos modes de nos manières de faire.
Il y a peut-être un paradoxe apparent au sujet des océans, au sujet des mers. D'un côté, ils sont mis en lumière d'une façon dramatique, aujourd'hui, notamment liée à la question du changement climatique. Et dans le même temps, on réalise qu'on méconnaît ces espaces, qu'on méconnaît la vie de celles et ceux qui les peuplent par ailleurs. Est-ce que les animaux marins, là, c'est l'objet de votre dernier ouvrage, hein, des vies océaniques, est-ce que ces animaux marins peuvent être pour nous un vecteur de connaissance vis-à-vis de l'océan? Est-ce qu'il faut, si je puis dire, les utiliser, entre guillemets, pour tenter de mieux comprendre ces espaces gigantesques?
Alors, votre question, elle résonne tout de suite avec des projets de recherche qui utilisent directement les animaux marins et même les mammifères marins. Je pense aux éléphants de mer qui sont utilisés, parce que ce sont de grands plongeurs, qui sont utilisés pour aller capter des informations vers des espaces où on n'a pas accès. Et en fait, c'est aussi ce qui participe de la fascination qu'on a pour ces animaux, puisqu'en réalité, très souvent, par exemple, sur le terrain, on me parle de l'œil de la baleine, mm-hmm. l'œil d'un mammifère marin. Cet œil, il voit des réalités auxquelles nous, on n'aura jamais accès. Et d'ailleurs, un œil, a priori, ça sert à rien dans les grandes profondeurs, puisqu'on n'y voit rien. Et ça, c'est fascinant de se dire que on peut partager un élément, celui de l'air de la surface, avec des animaux qui voient des réalités dont on est privé, et dont nos connaissances également, où nos connaissances achoppent.
Sur ces animaux marins toujours, voilà ce que vous écrivez. Alors que tous les animaux terrestres nous fuient d'avoir été chassés, piégés, détruits, ces raies se comportent envers l'humain comme s'ils n'étaient pas le fléau qu'ils sait être parfois. Fin de citation. Il y a justement ce rapport différent selon que l'on est un animal terrestre ou un animal marin vis-à-vis des êtres humains, parce que on est peut-être moins chassé, moins piégé lorsqu'on est un animal marin.
Et en même temps, le charisme de la baleine, il est mélancolique et il est directement lié à cet héritage de la chasse baleinière. Je parlais tout à l'heure d'une toile de fond.
La baleine est mélancolique pour cela ?
En tout cas, son charisme est mélancolique. Son charisme renvoie à cet héritage difficile de la chasse à la baleine, et qui a mené à extinction des espèces. C'est sur la côte basque qu'a commencé la chasse baleinière en Occident. On a mené à extinction la baleine franche de Biscaye. Voilà, donc le charisme de la baleine est mélancolique d'une certaine manière. Ça, c'est notre héritage. Quand la toile de fond en parallèle, qui est également très médiatique, c'est celle de ces échouages répétés. Donc moi, après avoir travaillé auprès des marins-pêcheurs, j'ai décidé de cheminer auprès des scientifiques qui les fréquentent le plus et des correspondants du réseau national échouage également, qui eux ont les mains dans les carcasses qui s'échouent et qui incarnent une forme de soin des vivants, mais à travers le soin des morts en réalité.
Mais on est frappé quand même d'entendre que les animaux marins seraient moins piégés, moins tués que les animaux terrestres. Quand on regarde justement les chiffres de la surpêche, est-ce que c'est si vrai ou est-ce que c'est simplement en comparaison de l'immensité des océans et de ce que permet la liberté océanique ?
Alors je pense aux mammifères marins, là, les contacts avec les mammifères marins. Aujourd'hui, mais je ne suis pas éthologue, je suis anthropologue, donc je m'intéresse à nous, notre rapport et nos représentations de ces animaux. Elle est peut-être facilitée par le fait que on les chasse plus, mais on les a chassés. Et il faut aussi se rendre compte que certaines disparitions, certaines apparitions rares sont liées au fait qu'on les a chassés et qu'il faut se réhabituer à leur retour, à leur présence de nouveau sur nos côtes pour certains animaux. Je pense aux phoques gris notamment.
J'aimerais vous faire entendre la voix d'une philosophe, professeure à l'université de Liège, Vinciane Després. Elle s'exprimait en 2021 sur France Inter dans Feu, l'émission Boomerang.
Ce qui est intéressant avec les animaux, c'est la différence, comme ce qui est intéressant avec les humains. Ce qui nous intéresse, c'est les humains. Souvent, on a tendance à considérer que les alliances se font avec le proche. Mais est-ce que les alliances... Oui, bien sûr, il y a des alliances avec les proches qui sont intéressantes. Elles sont parfois un peu plus fiables parce qu'on peut au moins prévoir leur réaction. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est des alliances avec le très différent, parce que c'est ça qui, d'une certaine manière, à la fois enrichit la vie et à la fois peuple le monde d'une très grande diversité qui nous offre des occasions, nous, de bouger. Parce que c'est ça aussi, être vivant, c'est tout le temps en train de changer. Comment changer avec uniquement des semblables à vous? Ça, c'est difficile. Par contre, changer avec des êtres qui ne cessent de vous surprendre, de vous interpeller, de vous dire, mais ça aurait pu être autrement. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est quoi le monde dans lequel tu vis? Il aurait pu être autrement. C'est quoi un monde de libellules? C'est quoi un monde, je sais pas, de bonobo d'éléphant ou quoi que ce soit?
Vous êtes d'accord, Fabien Clouette, avec Vinciane Després. Est-ce que lorsque vous partez à la rencontre d'un mammifère marin, lorsque vous rencontrez même par hasard, parce que je sais que vous plongez, lorsque vous rencontrez par hasard un animal marin, est-ce que vous êtes confronté à l'altérité pure? Est-ce que c'est cela qui vous attire dans le fond, ou c'est tout autre chose?
Alors, moi, je ne suis pas cétologue, je suis anthropologue, donc souvent ce qui m'intéresse, c'est de plonger à côté d'humains qui plongent à côté d'animaux marins ou à côté de mammifères marins. Et je suis toujours plus intéressé par nos tensions et notre diversité d'approche de ces animaux, et notamment peut-être une tension qui est celle d'un esprit scientifique, conservationniste, emprunt en tout cas de la cause environnementale, qui réfléchit à l'échelle de l'espèce, et celui de la cause animale, qui pense davantage avec des impératifs moraux à l'échelle individuelle. Et c'est vrai que, dans le livre, c'est la biographie d'individus animaux, mais ce sont des biographies relationnelles, ce sont des biographies qui ont pour limite le fait que je ne peux rester que sur le seuil de ce que les humains que j'ai rencontrés sur mon terrain m'ont permis de voir de ces animaux et de raconter de cette biographie.
Il faut spécifier de quoi il s'agit lorsque vous dites des biographies relationnelles. Ça veut dire que ce sont des biographies qui s'intéressent toujours à deux êtres vivants, ou bien c'est toujours la biographie de rencontres qui entoure un seul et même être?
Le livre est construit autour de quatre parties. Il y a la biographie d'un phoque gris, la biographie d'un grand dauphin, la biographie d'un rorqual commun, juvénile, et, disons, la biographie d'un clan d'orques. Mais c'est toujours parce que les modalités d'existence même de ces animaux, qui sont pourtant nommés, suivis, parfois starisés, nous échappent. C'est systématiquement le récit, en tout cas, de rencontres entre des humains et des animaux, et ces animaux-là, individus, et des rencontres aussi entre humains. Et d'ailleurs, les conflits entre les animaux et les humains sont quasiment systématiquement des conflits entre humains.
Alors on va plonger justement dans ces biographies relationnelles, elles sont passionnantes, hein, vous les racontez dans des vies océaniques, quand des animaux et des humains se rencontrent. Il faut d'abord poser le décor, il faut situer où se passent ces rencontres. Alors ce n'est pas un lieu géographique à proprement parler, mais elles se passent dans ce qu'on appelle l'estran. Il faut nous raconter, nous décrire ce qu'est l'estran.
Oui, alors en tout cas c'est un espace du maritime qui moi m'a permis de penser ces rencontres ou cette ce caractère liminaire, ce seuil un petit peu de rencontre, puisque l'estran c'est l'espace où la marée se retire, donc c'est plus vraiment la terre, mais pas forcément encore la mer. C'est là où en fait on retrouve ces individus échoués. En réalité, c'est là où aussi on retrouve certains animaux échoués qui sont vivants, ou alors où certains animaux viennent se reposer, puisque un phoque, ça a deux besoins, se nourrir, se reposer. Et donc, ça vient assez naturellement sur l'estran, se reposer. Et donc, l'estran, c'est cet espace comme ça, liminaire, qui me permettait de penser la possibilité d'une rencontre aussi, et la possibilité de l'arpentage par l'humain d'un milieu qui lui est hostile et de l'arpentage par un mammifère marin d'un autre espace qui lui est hostile également. D'ailleurs, ça me fait penser au fait que le premier vertige face à ces animaux, c'est le fait que dans leur histoire évolutive, ce sont des mammifères, mais qui sont retournés à l'élément océanique, à l'élément marin. Avec des capacités d'apnée parfois pas énormes. Donc c'est un premier vertige de voir des animaux qui nous ressemblent, pour répondre un petit peu à votre question de tout à l'heure. Certes, ils sont l'altérité même, puisqu'ils plongent parfois à 600 mètres de fond pour le dauphin de Risseau, pour aller chercher des calamars, encore plus pour le cachalot, à des territoires qui ne seront jamais accessibles, et en même temps, ce sont des mammifères.
Et certains chercheurs disent même, je l'ai appris en vous lisant, certains chercheurs disent même que c'est la version évoluée de nous-mêmes, ces animaux marins. Qu'est-ce que vous pensez vous-même de cette théorie ?
Mais alors, ces animaux, ils sont très présents dans nos imaginaires aussi, dans les objets culturels, livres, films, même dans une chambre d'enfant, il y a plein de baleines de toutes formes différentes, des peluches, des représentations. Donc en fait, ils sont présents dans notre univers pour l'ensemble de notre société, mais il est très rare de rencontrer une baleine dans une vie. Et les personnes qui auront cette chance, pour le dire vite, parfois aussitôt apparu, aussitôt disparu, c'est un aileron par-ci, voilà. Et un souffle qu'on a à peine perçu. Et donc, j'ai oublié le début de votre question.
Est-ce que c'est une version évoluée de nous-mêmes, ces animaux marins?
Voilà, et donc c'est toutes ces références culturelles, cet imaginaire, il a mené aussi à un intérêt un peu New Age pour ces animaux, le dauphin notamment, avec des envies de communiquer avec ces mammifères qui vivent dans un autre élément et qui pourraient porter une forme de message, une forme de comme ça, qui seraient des ambassadeurs. C'est d'ailleurs le terme, un des termes, pour désigner les dauphins solitaires qui viennent au contact des humains, comme c'est le cas de Zafar, cet animal de la deuxième partie du livre, qui est un
le dauphin. Voilà. Alors on va commencer par le phoque, si vous le voulez bien. Racontez-nous qui est You, ce phoque sur lequel vous mettez la lumière, Fabien Clouette. Il faut nous rappeler, j'allais dire, quelle était sa vie et pourquoi, en un sens, il a intéressé tant de monde sur les plages de Gironde.
You est un phoque gris qui, dans son errance juvénile, puisque les phoques gris sont sevrés assez rapidement et doivent ensuite de manière erratique faire leur éducation, s'est retrouvé beaucoup plus au sud que les animaux, les phoques gris qu'on a l'habitude de voir. Il s'est retrouvé sur des plages, en effet, de Gironde. Et a trouvé des reposoirs qui lui convenaient, qui étaient à son goût, qui étaient les planches de surf des locaux. Et c'est vite devenu une forme de mascotte. Sauf que la mascotte a grossi, a grandi, et est devenue un peu agressive également, et est devenue un problème pour les autorités locales, à l'époque, qui ne savaient pas du tout que faire de cet animal. Finalement, c'est devenu une sorte de cauchemar du gestionnaire, notamment pour la saison touristique. Et après différentes péripéties administratives où il a été question de scénario qui nous semble aujourd'hui totalement fou comme l'abattage, alors que c'était il y a que 10 ans. Bon, en fait, comme c'est un animal protégé, il en était déjà pas question, mais c'était sur la table. Et donc, il a quand même été, il y a une forme de violence, en tout cas.
De brutalisation.
Voilà. Il a été capturé et mis à l'isolement dans un bassin d'Océanopolis, qui est un centre de soins qui a l'habitude de récupérer plutôt des phoques juvéniles pour les soigner et les relâcher à l'eau. Et après cette détention provisoire, il a été de nouveau relâché en mer d'Iroise auprès de congénères. Et là, il a poursuivi sa vie de phoque, déshumanisé d'une certaine manière. En tout cas, on a travaillé à supprimer son imprégnation.
Et c'est un concept très important, ça. Il faut nous expliquer justement dans votre travail ce que ça représente, l'imprégnation, ce moment pratiquement, je le dis avec mes mots là aussi, où l'animal s'acculture à l'existence de l'être humain. Je vois hésiter avec mon terme, mais je vous laisse me corriger.
Oui, mais encore, je suis pas éthologue ou spécialiste de ces animaux, mais en tout cas, du côté humain, il y a de nouveau, peut-être pas une forme de vertige, mais voilà, quelque chose qui est surprenant dans ces destins d'animaux qui viennent au contact. Et donc, l'imprégnation, c'est l'animal qui va, outre le répertoire classique de son espèce, des comportements de son espèce, de ce qu'on connaît, de ce qu'on considère comme étant normal pour un individu phoque, qui doit vivre parmi ses congénères, et qui vient du coup au contact des humains et qui grandit auprès des humains et qui s'y habitue.
Dans ce contexte-là et dans l'histoire que vous venez de relater, qu'est-ce qu'un animal déviant ? Comment là aussi on approche ce concept sociologique de la déviance pour l'appliquer à la situation que vous venez de raconter ?
Voilà, alors moi c'est un terme que j'ai rencontré dans les discours, alors qui m'a tout de suite intéressé, parce que quand on parle de déviance, un sociologue, il a tendance à penser au concept de déviance en sociologie, c'est-à-dire d'écart par rapport à la norme. Et donc, quelle norme ici ? Ben, la norme de l'espèce. En tout cas, de ce que je disais, du répertoire des actions et des comportements possibles pour un phoque gris, en l'occurrence, mais ça peut être pour un grand dauphin, ça peut être pour un autre animal. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a intéressé. Après, ce que j'aurais tendance à rappeler, c'est que ce terme, il est utilisé, mais dans la bouche des scientifiques et des spécialistes, il est très souvent rapidement modifié. On y dit oui, enfin déviant, mais pas vraiment. C'est juste, ça pourrait être aussi un pionnier, par exemple. Et c'est le cas de You. Ça pourrait être le pionnier de recolonisation, puisqu'en fait, on s'est rendu compte simplement que on s'est rendu compte de la plasticité de cette espèce. Moi, je dis, on s'est aussi rendu compte de la plasticité de notre conception de ce qu'est cette espèce et de sa capacité à venir coloniser des espaces où la mer est un peu plus chaude.
En quelques mots, qui est Zafar, un dauphin cette fois-ci ? Pourquoi là aussi est-il célèbre, celui-ci ? Et pourquoi vous a-t-il intéressé ?
Alors, c'est un grand dauphin qui fait partie de cette tradition qu'on a en Bretagne d'avoir des dauphins solitaires qui viennent là encore un peu gêner certaines activités portuaires ou sans gêner devenir des mascottes. Donc là, en cela, c'est une biographie qui ressemble à celle de You. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que son destin, il a changé à partir du moment où il a vécu le confinement à Douarnenez. Et donc, il pouvait plus perturber les activités nautiques ou interagir avec les humains. Il a suivi un voilier de fret jusqu'au port d'Amsterdam. Là, il y a eu tout un tas de péripéties, en fait, qui sont très intéressantes sur la question de quelle est la place de cet animal. Est-ce que sa place est dans un grand port comme celui-là ? Il a été mis en dehors de l'écluse. Et puis, quelques jours plus tard, on l'a retrouvé échoué mort. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce destin animal-là, c'est le fait qu'au-delà de sa mort, post-mortem, la tension entre singularité d'un individu et la représentation de son espèce s'est incarnée, puisqu'un muséum a réclamé le corps, le squelette, pour l'exposer, et que ça a immédiatement fait controverse avec les Bretons qui avaient l'habitude de nager avec ces animaux, et qu'en réalité, aujourd'hui, il représente l'espèce Tursiops truncatus, grand dauphin, dans ce muséum, mais il a aussi un cartel qui rappelle son histoire d'individu, d'animal singulier.
L'éthologue Fabienne Delfour, qui s'exprime au sujet de Zafar le dauphin, c'était dans une histoire particulière.
À un moment donné, il y a eu des rencontres entre dauphins et humains, Et donc, à un moment donné, très certainement, il y a une des interactions qui ont été positives pour l'animal, et il a construit un réseau d'interactions avec certains humains. C'est non seulement un lien ou une familiarité, il y a aussi l'idée d'être choisi par ces animaux qui sont assez exceptionnels, puisqu'on a une vision assez romantique et fantasmée de cet animal qui est intelligent, qui est joueur, qui est sensible. Donc on a tout intérêt, si on veut être un peu narcissisé, d'être choisi par de tels animaux. C'est un animal qui est emblématique. Être choisi par un cafard, par exemple, c'est un peu moins sexy.
Pourquoi, Fabien Clouette, faire ces récits, non pas de vie d'animaux, on a bien compris que c'était pas l'objet principal de votre travail, mais le récit de ces rencontres, de ces passages et de ces transmissions entre les animaux et les humains?
Alors, ces récits, peut-être, qui permettent de dépasser une forme de vulnérabilité, une double vulnérabilité qu'on a vis-à-vis de ces animaux, qui est une vulnérabilité d'abord physique, qui renvoie directement au mythe du monstre marin qui a infusé là encore nos imaginaires, et puis une vulnérabilité intellectuelle qui est celle de du manque de connaissances et du fait que on en apprend tous les jours encore sur ces animaux et qu'ils nous ressemblent mais qu'ils nous échappent également. Et donc en faire récit, et c'est quand même un recueil de vie, c'est un recueil de vie d'animaux illustres d'une certaine manière. Permet de dépasser cela et d'aller un peu plus loin que le simple fantasme un peu empreint de terreur du monstre marin ou celui du grand message de la nature, d'une nature qui se défendrait.
Merci beaucoup Fabien Clouette. Des vies océaniques quand des animaux et des humains se rencontrent, c'est aux éditions du Seuil. Merci d'être venu ce soir.
Merci.
Question du soir.